Bonjour à toutes et tous, bienvenue à Regards Croisés avec Arlette Farah et
Fulgence Blain.
Alors bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette.
Aujourd'hui encore une belle émission.
Deux invités,
donc en deuxième partie de l'heure, nous recevrons Jimmy Vigneux pour parler de l'initiative citoyenne et environnementale Mission 1000 tonnes. Donc restez avec nous jusqu'à la fin.
Et moi, je vais recevoir quelqu'un qui est comédien, qui est cinéaste, c'est un artiste boursier du calque. Les détails tout de suite après la première pièce musicale qui nous vient du collectif d'artistes Playing for Change, Imagine. C'est un collectif d'artistes du monde entier. Ils se sont jamais retrouvés dans le même studio, chacun dans sa ville natale. On peut être de Johannesburg, d'Ottawa, oui, ou encore là, de Houston au Texas, et puis on fait un tube ensemble. Voilà, notre invité déjà en ligne avec nous. On va parler de cinéma. C'est un auteur, cinéaste, comédien, il fait tout. Justice Ruti Cara, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir eu le temps d'être avec nous là, même si vous n'êtes pas en studio avec nous, d'être avec nous téléphoniquement, pardon, on se voit Et puis, voilà, et puis bon, malgré votre emploi du temps chargé, je vous ai dérangé ce matin en plein montage. Voilà. Alors, comment on se sent comme ça quand on est choisi par ses pairs pour être boursier du CAL? Comment on se sent?
On se sent choyé et puis chanceux aussi. Mais chanceux aussi parce qu'on a pris le risque et le temps et les efforts pour y parvenir. Donc, ça demande quand même un bon travail. Puis, beaucoup de confiance en soi, j'imagine. Là. Donc, on est très contents.
Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le cinéma, la production?
Moi, quand je suis arrivé, je suis né au Rwanda, et quand je suis arrivé en fait au Québec, à Québec précisément, j'avais l'âge de 3 ans environ, et j'étais très fasciné par la télévision et puis le cinéma en général, parce que c'est comme ça que je découvrais en fait le nouveau monde que j'étais, là. C'est l'Occident en général, mais aussi le Canada, l'Amérique du Nord, le Québec, les valeurs, les mœurs. C'était tout à travers beaucoup la télévision que je voyais.
Oui.
C'est arrivé en février, donc c'était en plein hiver.
En plein hiver,
donc,
oui.
Et je m'en souviens d'avoir eu une attirance, je pense que je suis très visuel, tout simplement, et j'avais une attirance avec la télévision,
les images.
Les aussi, oui. Et donc, et particulièrement les histoires, mais aussi tous ces personnages et tout le symbolisme, en fait, dans le cinéma. C'est très travaillé, c'est souvent très méticuleux comme art et c'est très complexe.
Oui.
Puis ça venait me chercher cette complexité, que ça, au niveau de la musique, du cadrage, des couleurs, de comment les personnages sont positionnés, comment les acteurs, les actrices jouent. Donc tout ça, je pense que je suis très, je suis beaucoup à la recherche d'une multitude de stimulus. Donc oui, c'est ça. C'est ça qui m'a attiré.
Oui. Est-ce que ça a été facile de frapper à la porte de ce milieu?
C'était plus ou moins. J'étais extrêmement chanceux parce que moi, ce qui m'avait attiré dans ce milieu, c'était en tant que comédien. J'avais environ 16 ans quand j'ai rentré dans une école privée à Québec. Pour faire de l'acting, du jeu en fait. Et j'étais chanceux parce que la première année dans cette agence que je m'étais inscrit, j'avais eu des contrats à Québec et à Montréal. Et donc, mais après, à Québec en particulier, c'est pas l'industrie de Montréal, donc ça tourne pas aussi, il y a pas autant de production. Donc, j'ai eu un petit creux de 2-3 ans environ, et puis j'ai décidé de venir à Montréal justement pour intégrer l'industrie. Et quand je suis venu, je m'étais beaucoup plus intéressé à être un créateur, un cinéaste, parce que j'ai remarqué qu'il y avait une grande différence avec le milieu de Montréal, la vie montréalaise, la représentation ethnoculturelle montréalaise, et puis qu'est-ce qu'on voit à la télévision, puis au cinéma.
Oui.
Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de m'intégrer. Puis, je faisais des études en études internationales en sciences politiques, donc c'était pas vraiment dans le milieu du cinéma.
Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec.
Oui, c'est ça. Donc, j'ai commencé aller dans des événements, et puis des événements du cinéma et un peu de la télévision, juste pour mieux comprendre l'industrie, puis... j'étais quand même très bien accueilli à un certain niveau, puis rapidement j'ai intégré. Donc, mais c'était dans un contexte très spécifique. Le monde critiquait beaucoup justement dans les professionnels, mais aussi le public critiquait beaucoup le manque de représentation. Là.
Oui.
Et c'est pour ça que j'étais quand même chanceux d'intégrer rapidement l'industrie. Mais donc ouais, dans mon cas c'était plutôt rapide.
Oui, ça a été plus... on vous a tendu la perche, quoi, disons.
Oui, puis... oui, c'est ça. Donc, j'arrive dans un... J'ai débuté ma carrière avec un accès à ma privilégié dans un contexte qui demandait juste que des personnes comme moi puissent s'exprimer puis écrire. Donc, c'est ça. C'est un concours de circonstances. Mais j'avais aussi des bonnes idées à apporter parce que justement, je baignais dans cette envie puis dans cette culture cinématographique qui allait au-delà de juste mes connaissances, parce que j'ai pas fait de formation en cinéma, mais j'ai compris un peu pourquoi c'est important de faire du cinéma. Et je pense que quand je présente des projets, c'est comme ça que je parviens à gagner la confiance et puis aussi à me faire appuyer, notamment par des institutions financières, mais aussi des diffuseurs et puis des équipes professionnelles.
Oui. Donc, voilà, donc, avant de continuer, on va revenir sur les différentes formations que vous avez eues d'ailleurs, au Talent Lab Campus de Festival du cinéma de la ville de Québec, préparation à un rôle de policier, bon, les différents ateliers que vous avez eus, mentorat artistique professionnel en cinéma diversité artistique de Montréal, le DAM, interprétation théâtrale à l'école d'acteurs d'autres, machin. Ça fait tellement, ouais, je me suis dit, il a le parcours sans parler de ça. Sa formation universitaire qui n'a rien à voir avec le cinéma. On va, avant de continuer, si quelqu'un, un de vos amis à côté vous demande, est-ce que je veux me lancer dans ce métier, quel est le conseil que vous avez à lui donner?
En tant que cinéaste?
Oui, en tant que cinéaste.
Ça va dépendre beaucoup de sa personnalité, mais professionnellement, je conseillerais de bien comprendre l'industrie, comme oui. En fait de se familiariser avec les piliers, mais aussi les ressources à comprendre en fait oui. Et les enjeux dans ce milieu-là. Donc et aussi beaucoup en fait oui, et je parle là de réseau, d'avoir des réseaux,
des connaissances, oui.
D'aller dans des événements, il y a plein de festivals au Québec, notamment à Montréal, des festivals de cinéma. Alors d'y aller, puis de beaucoup écouter des films, des séries, pour justement être à l'affût en fait de qu'est-ce qui se passe en ce moment,
oui.
De quels sont les thèmes récurrents, les thèmes à la mode, c'est parce que moi je pense que ce qui fait un peu la force d'un individu, c'est d'apporter une originalité,
oui.
Une originalité dans des thèmes qui sont peut-être connus. Ou sinon d'apporter de nouveaux thèmes, de nouvelles réponses en fait.
Pas tout simplement faire du copier-coller.
Oui, exactement.
D'accord.
C'est bien de comprendre en fait
ouais.
le milieu pour bien y intégrer.
Pour bien y intégrer. Alors justice, on fait une petite pause musicale et puis on revient, on va parler de vos prix, vos mentions, vos bourses et puis aux différents jurys et conseils, tout ça auxquels vous avez assisté ou bien les prix que vous avez reçus. On fait une pause musicale et puis à tout à l'heure.
D'accord.
Je ne peux compter sur mes doigts toutes les couleurs qui ont taché le blanc de mon hiver troublant. Quand nous aurons remisé nos guirlandes dorées, après le nouvel an, tout sera comme avant. J'aurai perdu ma foi une nouvelle fois. Bientôt l'humanité aura une année de plus. Merci pour la douleur, mon amour, ô mon cœur. Tu es disparu comme les feuilles des feuillus, me laissant seul errant dans le vert des sapins piquants et le rouge de mon sang qui coule en t'attendant. Le rouge, le vert, l'argent et l'or colore ma vie de triste répit, car après les fêtes tout s'éteindra et ton absence toujours brillera. Je ne peux compter sur mes doigts toutes les couleurs tacher le blanc de mes nuits espérant. Dans le feu joyeux, je revois tes yeux malicieux, la beauté de ton corps. Oui, tu me manques encore. J'aimerais que Saint-Nicolas te ramène chez moi. Bientôt l'humanité aura une année de plus, mais j'ai mal en dedans, Noël est décevant. J'aimerais retrouver mes joies naïves d'antan, s'envoler, mon enfance dorée, et surtout oublier qu'on s'est déjà aimé. Le rouge, le vert, l'argent et l'or colorent ma vie de triste répit, car après les fêtes tout s'éteindra et ton absence toujours brillera.
Alors, on a notre invité qui est toujours avec nous. On va continuer. Arlette, à une question pour vous, Justice.
On annonce d'abord Pierre Lapointe qui chantait Toutes les couleurs. Voilà. Alors, ma question, elle va être là dans le cinéma. Quels sont vos sujets de prédilection? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous intéresse?
En cinéma, moi, ce qui m'intéresse profondément, c'est raconter des histoires symboliques, des expériences que je trouve manquent. J'essaie beaucoup de pallier un petit peu à ce qui manque en fait dans l'industrie selon moi là. Donc en gros ça serait un peu ça, parce que en ce moment je touche un peu à tout, je fais du documentaire, de la fiction, du balado aussi, donc ces œuvres surtout audio, mais ça reste des histoires qui sont très cinématographiques. Donc en ce moment je suis aussi en train de développer un film d'animation, donc c'est, tous les genres m'intéressent. C'est juste raconter des histoires que avec des personnages, avec des récits, des milieux qui sont souvent marginalisés ou pas vus, et puis les embellir. J'aime beaucoup.
D'accord.
J'ai un modèle de. J'ai une démarche de très chaos harmonique, c'est comme ça que j'appelle, et je trouve qu'en ce moment, on a un enjeu de homogénéité culturelle dans nos représentations de films, de récits québécois. Et moi, j'essaie de créer, de représenter en fait la diversité de la nature humaine à travers. Mes films, c'est de manière harmonique.
Mais dans une fin heureuse, quoi. On va dire ça comme ça.
Oui, exactement.
Merci.
Oui. Justice, on va parler de vos prix, mentions et bourses, résidence de scénarisation, cinématographique, bande. On va aller avec ça. Pour le chasseur. Et puis bon, 2020, bourse vivacité, calque. Pour au 7e jour, 2020, bourse création émergente, SODEC. Allez, parlez-nous un peu de ça, de tout ça, s'il vous plaît.
Oui, bien en fait, dans l'industrie, pour faire des films professionnels, faire des œuvres professionnelles, il faut être financé souvent par des institutions gouvernementales. Et ici, on a le Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que la SODEC, qui est la Société de développement des entreprises culturelles. Et donc, moi, puisque je veux faire des grands projets, des gros projets, puis des projets qui sont professionnels, c'est là-bas que je suis allé cogner à la porte pour avoir des fonds,
oui.
Pour développer mes projets, avoir des équipes, et puis que mes films soient diffusés, puis dans des grands publics, aussi auprès des professionnels du milieu. Donc, pour respecter tant le grand public, les personnes du milieu. Et donc, c'est ça. J'ai heureusement obtenu des bourses à ce niveau, autant au CALC qu'à la SODEC. Et c'est ça. J'ai commencé en 2017 ma carrière professionnelle au RIDM, dans lequel j'ai obtenu une bourse de la part de l'ancien de Canadien, en fait, l'ancien directeur. Et à partir de cette année-là, je me suis beaucoup investi en fait à essayer de m'intégrer dans l'industrie et donc me faire des liens professionnels, d'obtenir de l'expérience, faire des ateliers, des formations. Et c'est comme ça que je suis parvenu à déposer chez les institutions financières et obtenir du financement pour mes projets.
Oui, oui, oui. Pour ceux qui ne le savent pas, RDM, c'est les Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Voilà, ça qui vous a permis de partir. Vous avez fait partie aussi de jury, jury conseil création des contenus numériques originaux pour la fabrique culturelle, membre de jury 2020, comité d'acquisition, Spira Distribution, membre occasionnel comité 2020, du Centre multi-ethnique de Québec, membre administrateur 2019, et puis conseil des jeunes philanthropes du musée des Beaux-Arts de Montréal 2018-2019. Comment on arrive là? En tant que jeune personne, comme ouais, si c'est pas.
J'aime ça m'investir, puis j'aime ça sentir que je peux avoir un impact au niveau décisionnel dans des organismes que je trouve qui me tiennent à cœur. Et donc, c'est souvent des organismes culturels ou liés avec justement les enjeux d'immigration. C'est ça. Je me suis retrouvé dans une situation où que je sois proposé au moment où on m'a proposé des postes de décision à cause de mon caractère qui est pas mal analytique par moment. Donc, et je pense que j'ai aussi, je suis facilement confiance là, avec mon attitude. Donc,
oui.
Et j'aime ça aussi qu'on me fasse confiance. Donc, je me suis retrouvé à, notamment à aller à la rencontre des autres, surtout des milieux que personne ne connaissait nécessairement. Et puis, c'est comme ça que je me fais découvrir. Et c'est comme ça aussi que je démontre aussi un intérêt à participer dans la communauté. Parce que créer des films, c'est pas juste créer des films pour son propre bien, c'est aussi une idée de partager les histoires et des points de vue. Donc, c'est vraiment de faire partie d'une communauté. Donc, au-delà de l'industrie du cinéma,
oui.
du milieu du cinéma, c'est vraiment aussi une communauté dans laquelle des personnes se partagent finalement des histoires très complexes, des œuvres très complexes, mais reste que c'est surtout au CALQ, par exemple, au Conseil des arts et des lettres du Québec, c'est le jury, c'est des membres, c'est des artistes. Donc, c'est des personnes qui eux-mêmes, je reste toujours boursier, je fais toujours des demandes de bourse, tout en ayant de temps en temps l'occasion d'être moi-même un membre du jury. Et je me fais aussi juger selon mes projets par d'autres artistes.
Oui.
Donc, ça reste toujours cette atmosphère, cette ambiance de communauté qui travaille, qui s'entraide et puis qui se juge les uns aux autres.
Oui. Oui. Et côté théâtre, comment ça marche?
J'avoue que pour le théâtre, je suis entré par un peu la force des choses. C'était une obligation, en fait, dans l'école privée que je m'étais j'avais intégrée lorsque j'étais adolescent à Québec. Et je pense que j'ai un talent pour le jeu et puis pour le théâtre, mais c'est pas quelque chose qui me passionne plus que le cinéma, parce que c'est deux types de jeux différents.
Oui.
Et j'aime le côté plus contrôlé, puis on est plus dans les détails quand on fait du cinéma, tandis qu'au théâtre, on est plus explosif et puis tout devient un peu plus grand et on doit jouer plus grand et puis c'est un peu moins de mon style. Donc j'ai un peu mis ça de côté, mais il reste que à chaque fois que j'essaie de m'éloigner du théâtre, je me retrouve un peu à me mettre un pied dedans, mais c'est tellement pour du monde qui ont une formation souvent, là, c'est exigeant et donc ça demande je me suis un peu éloigné du théâtre en ce moment.
Ok, d'accord. Bon, avant de terminer rapidement, on a presque fini, on a encore une minute qui nous attend. Rapidement, dites-nous, est-ce qu'on vous donne des délais quand vous recevez des subventions comme ça ou bien des bourses comme ça? On vous dit tel jour, telle année, là, on veut que ce film-là soit fini. Rapidement, quelques mots avant de nous quitter.
En termes de délai, en fait, c'est nous qui proposons un échéancier.
Oui.
Puis et on est jugé par ça, si on se fait accepter, c'est parce que notre projet dans lequel l'échéancier a été établi fait du sens.
Oui.
Et donc, ils nous demandent pas, en fait, de conclure un projet, puis ils demandent juste à ce qu'on soit clair dans la durée que ça devrait prendre. Et donc, c'est vraiment nous, en fait, on est chef de notre propre échéancier.
Oui.
Et on peut allonger, mais il faut demander une demande, là, parce qu'il faut justifier aussi l'argent public qu'on a obtenu.
Oui.
Donc,
vous avez des comptes à rendre.
Exactement. Mmh. Donc, la plupart du temps, on est notre propre chef à ce niveau-là, mais il faut se justifier si ça prend plus de temps que d'habitude.
Il faut discipliner.
Exactement.
Et puis rester professionnel.
Oui, oui, sinon... On est jugé aussi.
Vous jugez vous d'abord avant que les subventionnaires ne viennent vous juger. Merci
oui.
beaucoup, Justice Rutikara.
Merci.
J'ai hâte de voir votre nouveau travail que vous êtes en train de monter là bientôt là sur les écrans ou bien sur le web.
Oui, la Cité des Autres.
C'est pour quand rapidement?
Ça va être en février à Radio-Canada sur les plateformes télévision et puis en ligne tout.tv.
Oui.
C'est un film. Sur la vie d'un HLM multiculturel, la vie communautaire, en fait, ça se passe, c'est le plus grand HLM de Québec, très intéressant, c'est très coloré, puis c'est très positif comme film.
Merci.
Pour avoir accès à vers les enfants, donc ça va être intéressant.
Merci beaucoup, Justice Rutikara, artiste boursier du Conseil des arts et lettres du Québec. Bonne merci. Continuation, bravo, merci bien et au plaisir de vous réentendre.
Au revoir.
Voilà, et puis on va vous suivre bien sûr aussi sur RTV, Radio-Canada et autres. Au revoir.
Merci.
du muguet, comme un vieil ami retrouvé. Il est revenu flâner le long des quais jusqu'au banc où je t'attendais. Et j'ai vu refleurir l'éclat de ton sourire. Aujourd'hui,
on annonce qui vient de passer.
Non, vas-y.
Yael Diaz, Los Criollos, All Star, Le Temps du Muguet. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission où on va parler de beaucoup de choses très intéressantes d'environnement et d'initiative.
Vous écoutez Regards Croisés avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
Alors dans un instant, avant de retrouver Jimmy Vigneux, donc comme je disais tout à l'heure, pour parler de l'initiative citoyenne environnementale Mission 1000 tonnes, on va partir en musique avec Hélène qui nous chante « Ces bottes sont faites pour marcher ».
Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre pieux, je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent. Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter, car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Tu mens tellement que c'est plus fort que toi, et tu ne sais jamais où est la vérité. Comme tous les enfants, tu crois être un homme, mais toi dans ma vie tu ne m'as rien donné. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter, car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Toi tu joues avec le feu et tu t'amuses,
mais un jour viendra où tu vas trembler. Ha! Un autre a pris ta place et moi je l'aime, yeah. Et ce qu'il est, tu ne le seras jamais. Ses bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ses bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Et maintenant, c'est toi que je vais faire marcher.
Jimmy Vigneux, bonjour.
Bonjour.
Est-ce
bonjour.
Que nous aussi on va mettre ces bottes pour la mission Milton?
J'espère.
Alors d'abord, bah, belle initiative citoyenne et environnementale qui a été faite. Donc on part tout de suite sur la mission Milton. Qu'est-ce que c'est? Je dis bien 1000 tonnes, entendons-nous, hein, parce qu'il y a eu des. Ça vise à ramasser des tonnes de déchets. Donc il y a eu 10 tonnes, il y a eu 100 tonnes maintenant. On part sur 1000 tonnes, c'est ça?
Exactement, exactement. Donc, on a atteint notre objectif là, de ramasser 100 tonnes de déchets, donc 100 000 kilos de déchets qu'on a fait là, dans les trois dernières années. Donc, la mission 100 tonnes qui devient la mission 1000 tonnes est un mouvement citoyen de nettoyage des cours d'eau, nettoyage des océans, de la planète, où on mobilise les gens à nettoyer leurs cours d'eau. Mais pas seulement de nettoyer, c'est aussi de faire prendre conscience aux gens de l'impact de nos produits de consommation sur notre environnement, notamment nos cours d'eau. Donc, tout ce qui est le plastique à usage unique, parce qu'on s'entend que notre objectif ultime, c'est bien sûr de ne plus avoir besoin de nettoyer parce que nos cours d'eau sont propres.
Ben c'est aussi, faut dire aussi que c'est un mouvement purement québécois, il faut quand même le dire.
Tout à fait. C'est moi et ma cofondatrice, Lynn Morissette, là, qui avons parti ça là, il y a 3 ans. Avec rien du tout, hein, juste une page Facebook. Puis aujourd'hui, ben, on a mobilisé plus de 11 000 personnes à sortir dehors les samedis, les soirs, à venir nettoyer les cours d'eau, comme vous dites, avec les grosses bottes et les deux mains dans la boue. Là.
Et ben justement, tiens, en parlant de Lynn Morissette, qui est chef scientifique de la mission, elle dit qu'elle croit très fort à la créativité collective pour changer le monde.
C'est un beau message. C'est un beau message, puis je pense que c'est pour ça que Lynn a embarqué dans un projet un peu fou pour une scientifique à la base, parce que, bon, ils sont habitués de faire des études, être sur le terrain, ramasser des échantillons, et puis là, soudainement, elle se transpose en étant avec moi à mobiliser les citoyens pour agir, parce que ce qu'on croit, en fait, c'est que les connaissances scientifiques existent. On connaît l'ampleur de la situation, puis maintenant, c'est la mobilisation citoyenne qui va faire la différence. C'est quand tous les citoyens vont refuser que nos cours d'eau soient sales, soient pleins de plastique, qu'on va créer un changement, que les grandes entreprises vont créer un changement, que les gouvernements vont mettre des lois. Mais pour ça, il faut qu'il y ait beaucoup de citoyens mobilisés, et c'est là-dessus qu'on travaille.
Ben c'est sûr. J'ai lu qu'il y avait eu 25 000 heures de bénévolat environnemental avec des ressources plus que limitées.
Exactement. On a mobilisé, comme je vous le disais, le plus de 11 000 personnes avec une page Facebook seulement, puis bon, des entrevues dans les médias comme on fait en ce moment. Et puis c'est des gens qui vont passer des heures à l'extérieur à ramasser des déchets. Puis bon, on évalue que c'est à peu près 25 000 heures. C'est incroyable quand
c'est
même.
C'est énorme.
Deux personnes avec une page Facebook, on a mobilisé 25 000 heures.
Bravo pour ça.
Merci. Puis si on mettait un salaire au bout de ça, là, c'est un énorme investissement collectif qui a été fait dans la protection de nos cours d'eau.
Bien sûr. J'ai vu que pour la mission 100 tonnes, là, au fil des 3 dernières années, vous avez été invité à un sommet international sur les océans à Bali.
Oui, exactement. Donc, je suis allé à Bali, sommet international des océans, où là, plein de gens de partout dans le monde tentent de trouver des solutions pour sauver les océans parce que la situation est catastrophique. Donc, on faisait partie là, des initiatives qui avaient été invitées à venir réseauter, créer des collaborations. On a fait des nettoyages en Indonésie. Moi, j'ai passé 3 semaines là-bas à faire des connexions avec d'autres organisations qui font ça. Parce que, bon, notre mouvement est typiquement québécois ici, puis il prend de l'ampleur, mais il y a d'autres mouvements à travers la planète qui font sensiblement la même chose. Donc, on essaie de travailler, de collaborer avec eux.
Et qu'est-ce que c'est les actions qui sont mises en place pour réduire la consommation de plastique à la source? Ça veut dire quoi, ça? Parce que c'est énorme de... Tout ce qu'on trouve comme plastique dans les océans, c'est de la folie furieuse. Quoi, ça.
C'est incroyable. Donc, ce qu'on va faire, parce que là, à la mission Santone, on a surtout ramassé, nettoyé, sensibilisé, parce que c'est la première des choses, hein, c'est de sensibiliser les gens pour qu'ils prennent conscience à quel point il y en a. Parce que la plupart des gens se disent, ouais, mais ça, c'est en Chine, c'est en Indonésie que c'est sale, les cours d'eau au Québec sont propres. Mais quand on les amène sur le bord des cours d'eau faire des nettoyages, ils se rendent compte que nos cours d'eau sont pas aussi propres. Donc, c'est la première des choses, c'est de la prise de conscience. La prochaine des choses qu'on veut faire, c'est vraiment de mettre en valeur, puis on le voyait dans les dernières études qui ont sorti, les Québécois veulent de plus en plus agir, mais ils ne savent pas toujours comment.
Oui.
Donc, il y a un manque d'information, il y a un manque de promotion des nouveaux produits zéro déchet, des nouvelles boutiques qui viennent d'ouvrir zéro déchet. Ça pousse un peu partout, mais les gens ne les connaissent pas nécessairement parce qu'on a nos bonnes vieilles habitudes, on est habitué, puis le changement est toujours un peu difficile. Donc, déjà, de faire la promotion de tout ce qui existe déjà, puis d'inciter les gens à ouvrir des nouvelles épiceries zéro déchet un peu partout sur le territoire du Québec va créer ce mouvement-là, puis une différence. Puis ultimement, puis on le voit, ça commence à changer, on veut que les grandes surfaces prennent le mouvement aussi. Et puis ça va seulement se faire quand il va y avoir tellement de gens qui veulent consommer zéro déchet. Là, les grandes bannières vont aussi se dire « faut qu'on passe au zéro déchet parce que nos clients, c'est ce qu'ils demandent. » Donc, c'est vraiment ce mouvement-là qu'on va essayer de créer puis c'est ce qui va faire changer le marché.
J'ai vu rencontrer aussi à un moment, c'était l'année dernière, je crois que j'avais reçu un petit jeune homme qui travaillait dans le zéro déchet, qui faisait, qui livrait chez les gens dans des, non pas dans du plastique, mais dans des boîtes, tout en amenant ça en vélo. Donc, c'est aussi des belles idées originales que ça déclenche.
Exactement. Puis il y en a de plus en plus, ça pousse de plus en plus ces bonnes idées-là, des startups qui ont des bonnes idées environnementales. Et il faut les soutenir, il faut les faire connaître, parce que souvent, c'est des jeunes qui partent à bout de bras avec toute leur motivation. Il faut justement les soutenir pour que financièrement, ils soient capables de les développer, ces projets-là, parce que ça a un potentiel. Je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre dans l'avenir. C'est toutes ces initiatives-là écologiques, la consigne. Il faut que le plastique à usage unique devienne extrêmement rare et seulement dans des cas exceptionnels, quand on parle de la santé, par exemple, des choses comme ça. Mais dans le domaine alimentaire, il faut trouver d'autres solutions parce qu'on consomme une quantité incroyable de plastique à usage unique et ce n'est pas soutenable. Donc, il faut trouver une solution.
Ça, c'est absolument certain. Donc, on en reparle tout de suite après avoir fait une petite pause musicale. Mais avant la pause musicale, je tiens à dire quand même que la mission Sainte-Anne a remporté le prix Demain le Québec de la Fondation David Suzuki, a été nommé leader de l'eau 2019 par l'organisme Garde-Rivière des Outaouais. Donc voilà, c'était annoncé. Maintenant, on fait une pause musicale et on revient tout de suite après ça.
Excellent.
Encore un matin où je me lève, mais c'est la même journée. Et qu'elle commence ou qu'elle s'achève, je sais plus quelle heure il est. Je mange seul entre deux séries, j'ai plus qu'une seule chaîne de télé. Le matin c'est plutôt Netflix, le soir BFM TV.
Allez, allez, allez,
on va pas tomber dans la déprime.
Allez, allez, tu sais,
on ne va pas les laisser tomber.
Allez, allez, allez,
pour nos soignants et tous ceux qui triment.
Allez, allez, tu sais,
on va rester chez nous et danser. L'école sera plus fermée pour les enfants qui ont fait le tour de leurs 10 mètres carrés. Pour les médecins, on applaudit tous les soirs avant le dîner. Ce soir, il n'y aura pas de concert, mais on va tout donner.
Allez, allez, allez,
on va pas tomber dans la déprime.
Allez, allez, tu sais,
on ne va pas les laisser tomber.
Allez, allez, allez,
pour nos soignants et tous ceux qui triment. Chez nous et danser.
De l'hiver jusqu'à l'été, on va rester confinés. De l'hiver jusqu'à l'été, on reste ici pour danser. Danser, 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 danser.
On vient d'entendre Arcadian danser. Eh bien, on continue encore avec vous, Jimmy. Et là, Fulgence a une question pour vous.
Bonjour, Jimmy. Bonjour, Jimmy. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que c'est facile pour vous d'avoir des bénévoles, des gens pour le nettoyage, ou bien c'est compliqué, ou bien vous êtes, il y a des gens, quand ils prennent connaissance de votre projet, c'est, tout de suite, ils embarquent. Comment ça se passe?
Pour vrai, depuis le début, puis c'est ce qui nous a le plus impressionné, en fait, c'est qu'on a réussi à mobiliser énormément de gens relativement facilement, entre guillemets, là, dans le sens qu'on a lancé notre page Facebook la première journée, ça a explosé, on a reçu plein de courriels de gens qui voulaient collaborer.
Oui.
Puis à tous nos nettoyages, on a des bénévoles. C'est variable. Des fois, on est 5, des fois, on est 50, des fois, on est 75. Donc, on ne le sait pas avant d'arriver, parce qu'on utilise Facebook, puis après ça, quand on arrive sur les lieux, on voit le nombre de personnes qui se présentent. Mais à chaque nettoyage, on a eu des gens, puis ça, c'est extraordinaire.
Bravo, merci. Félicitations. Oui. C'est beau. Alors, très beau projet, en tout cas.
J'ai vu que dans ces, depuis le début du mouvement, il y a eu quand même plus de 500 nettoyages qui ont été réalisés dans toutes les régions du Québec et ailleurs dans le monde, puisque ça a même entraîné des mobilisations jusqu'au Japon, en Indonésie, au Mali, au Nicaragua.
Exact, on a eu...
C'est énorme!
C'est la force des réseaux sociaux qui est incroyable. Ça traverse les frontières.
Ben oui.
Donc, on a la chance d'avoir eu des gens. Des fois, c'est des Québécois qui sont sur place et qui décident de faire un nettoyage pendant leur voyage, ou c'est des expatriés qui décident d'organiser un nettoyage. Puis d'autres fois, c'est des pays francophones qui, par la magie des réseaux sociaux, ont vu passer notre mouvement. En Afrique, c'est ce qui est arrivé. On a eu plusieurs nettoyages d'Afrique. Et puis, c'est des gens qui ont vu passer ça sur les réseaux sociaux et qui ont dit hey, « Nous, là, nos cours d'eau sont sales, on veut suivre votre mission, on embarque avec vous, voici le résultat de nos nettoyages. » Donc, on voit qu'il y a un potentiel incroyable, qu'il y a une mobilisation internationale au niveau de cette cause-là et qu'il faut continuer. C'est pour ça qu'on veut continuer la mission Milton. On ne peut pas s'arrêter là parce qu'il y a énormément de gens qui veulent agir et nos cours d'eau en ont gravement besoin.
Mais ça, c'est sûr. Et puis, il y a un boulot pour des années. Alors, vous pouvez venir tous. Hein. ça suffira pas. Ça prendra pas 5 minutes. Quand vous dites que vous voulez créer un grand réseau d'ambassadeurs qui agiront partout sur la planète, c'est de quelle manière?
Bien, la façon qu'on veut fonctionner, c'est assez simple. On veut créer, justement, des petites antennes de la mission Milton un peu partout sur la planète. Parce que de la façon qu'on fonctionne à la mission Milton, les gens peuvent faire des nettoyages n'importe où sur la planète. Ils font leur nettoyage, ils prennent une photo, ils pèsent leurs déchets, ils nous envoient ça et nous, on peut les comptabiliser. Donc, dans les 500 nettoyages qu'il y a eu dans les 3 dernières années, on n'était pas à tous les nettoyages. C'est des gens qui ont décidé de prendre l'initiative de le faire.
C'est bien.
Donc là, ce qu'on veut faire, c'est de trouver des ambassadeurs qui vont s'engager à le faire régulièrement dans leur pays, dans leur ville, dans leur province, pour qu'on multiplie l'impact de la mission Milton. Donc, on veut des ambassadeurs au Japon, en France, en Angleterre, au Nicaragua, dans toutes les villes du Québec. Et puis comme ça, il va pouvoir s'organiser des nettoyages régulièrement et on va nettoyer nos cours d'eau de façon quasiment mensuelle. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Pour l'instant, on en organise beaucoup. On a beaucoup de gens qui le font de façon volontaire avec leurs amis, avec leur famille. Mais là, on aimerait avoir un réseau structuré d'ambassadeurs qui prennent des engagements d'en organiser plusieurs à chaque année pour vraiment mobiliser leur communauté. Parce que le pouvoir des petites communautés locales, c'est là que ça se passe. C'est quand les gens locaux s'impliquent, que là, tous les voisins, toutes les entreprises autour s'impliquent eux aussi dans ces corvées de nettoyage-là et ça fait la différence.
Alors maintenant, la question basique pour moi, c'est j'ai des bottes, j'ai pas de voiture et j'habite à Montréal et j'ai envie d'aider. Je fais comment?
Ben écoutez, Montréal est une île, hein? Donc, il y a plein d'endroits à Montréal qui sont sur le bord du fleuve Saint-Laurent, qu'on pense au parc Bellerive dans Mercier-Chagam-Maisonneuve, au parc des Mille-Îles. Il y a plein de parcs qui sont en bordure, soit de la rivière des Mille-Îles, soit du fleuve Saint-Laurent. Et puis, ils sont à nettoyer, je vous le dis, à toutes les semaines. Des parcs qui sont extrêmement fréquentés. Donc, on retrouve du plastique énormément. Là, je vous cacherai pas, pendant la pandémie, on trouve des masques partout, on trouve des mégots de cigarettes, on trouve des emballages de nourriture, de boissons, Donc, à tous les semaines, on peut aller faire des nettoyages dans les parcs à Montréal qui sont accessibles via les transports en commun sans problème.
Alors, en plus, on pourrait dire, vu la manière dont tout est jeté, que les masques, si on peut le Enfin, en tout cas, moi, je fais partie des gens qui le font. Je découpe mon masque pour pas que les poissons ou les animaux puissent se trouver pris dans l'espèce d'attache là qu'on pourrait lancer quand on jette le masque. Il y a des gestes à faire aussi. Il y a des gestes pour détruire, pour penser aux animaux qui peuvent être pris au piège.
C'est ça. La première des choses, je vous dirais, c'est de porter un masque réutilisable. Ça, c'est la première des choses à faire dans le cas actuel. Je pense que pour la majorité des citoyens, le masque réutilisable est parfaitement convenable. Donc, ça évite de jeter. Parce que le masque, si on le découpe, peut-être qu'on va réduire le risque qu'un animal se prenne dedans, mais sa dégradation va quand même se terminer en microplastique dans nos cours d'eau.
C'est vrai.
Donc, il faut réduire notre consommation, que ce soit pour les masques ou tout le reste du plastique à usage unique. Même le recyclage, tout ce qu'on met au recyclage, il y en a seulement un petit pourcentage qui est vraiment recyclé. Le reste va quand même finir dans les centres de déchets, dans les dépotoirs. Donc, il faut réduire, autant pour les océans, les cours d'eau, que pour l'ensemble de notre planète, il faut réduire notre consommation de produits qui n'est pas réutilisable.
Donc, ça veut dire que faire du recyclage, il n'y a qu'une partie du recyclage qui est vraiment recyclée, quoi?
Ben oui, effectivement. Donc, le recyclage, c'est vraiment pas la panacée. On ne peut pas juste se fier là-dessus. Le recyclage, bon, c'est moins pire que tout les jeter à la poubelle, mais c'est vraiment pas parfait. Donc, le but, là, c'est de pas... Tu sais, le but, là, c'est d'avoir sa poubelle à compost. Là, ça, c'est correct. Là, ça va être composté quand le système est installé là, dans ta ville. Mais le recyclage, le but, c'est d'avoir le moins de choses à mettre sur le bord du chemin à chaque semaine. Donc, le moins on en jette, le moins on en met dans le bac de recyclage, le moins on génère de déchets. Et puis, il n'y a pas juste les déchets, parce que tout ce qu'on consomme et qu'on jette rapidement, mais ça a pris de l'énergie aussi pour les créer, ces produits-là.
C'est sûr.
Donc, en plus du déchet que ça va créer dans notre environnement, c'est du CO2 qui a été émis lors de sa production, puis le plastique est fait à base de pétrole à la base. Donc, il n'y a rien de bon pour l'environnement dans tout ce processus-là. Mmh. Donc, essayons au maximum de le minimiser.
Il y a un tel travail à faire, c'est tellement énorme, ça me paraît presque surhumain.
Ben, effectivement, c'est titanesque, on va se le dire, mais ce qui m'encourage, en quelque part, c'est peut-être un des seuls avantages de la pandémie, c'est de nous montrer à quel point on est capable de faire des changements radicaux. Il y a un an, vous auriez dit que le masque serait obligatoire de porter ça partout, puis on serait tous partis à rire parce qu'on n'aurait pas compris pourquoi, premièrement, puis deuxièmement, on n'aurait jamais pensé que ça aurait pu être obligatoire.
C'est vrai.
Mais ça veut dire que demain matin, le gouvernement a le pouvoir de dire que le plastique à usage unique est interdit. Puis on va s'adapter. Il y a des solutions. L'important, c'est quand on met une règle, c'est d'avoir des solutions alternatives. Pour l'instant, il y en a des solutions. Il reste à mettre les infrastructures en place, les systèmes en place pour qu'ils soient de grande ampleur. Mais c'est faisable. Ça, on a commencé, le Canada a commencé en retirant certains produits. La Ville de Montréal aussi veut éliminer le plastique à usage unique. Donc, ça commence à se parler partout. Donc là, c'est juste une question de temps et de volonté politique pour qu'il y ait des vraies règles et des vraies lois. Et comme je vous le disais tout à l'heure, plus fort les citoyens vont pousser sur les entreprises et les élus, plus vite il va y avoir des vrais règlements puis des vrais changements.
Ben on trouve encore des sacs plastiques dans les magasins, appelons un chat un chat, puis quand c'est pas un petit plastique, c'est un gros sac consistant, mais qui est fait en plastique, donc c'est exactement la même chose. Donc il faut trouver aussi des solutions là-dessus, hein, dans la base de nos gestes de tous les jours, quoi. C'est tout.
Effectivement, il faut que tout le monde mette la main à la pâte là-dessus. Puis on a encore de la difficulté en tant que population à brimer un petit peu notre confort ou nos vieilles habitudes pour faire l'effort de plus que ça demande. Puis c'est ce qui est le plus dur dans toute cette histoire, en fait, c'est que le plastique à usage unique est tellement pratique, rapide.
Oui.
C'est facile, on le prend, on le jette, c'est pas compliqué. Pas besoin de le laver, pas besoin de l'entreposer, on fait juste le jeter. Donc, c'est le grand défi qu'on a. Et c'est pour ça qu'il faut éduquer nos jeunes, parce que c'est...
Mais nos jeunes et nos plus vieux aussi, hein, je vous rassure.
Oui, tout à fait, mais souvent, on va se dire, puis je commence à être vieux moi aussi, on a de plus en plus de misère à changer nos habitudes en vieillissant, mais les jeunes sont les meilleurs pour changer leurs habitudes dès la jeunesse, pour prendre conscience de la situation.
Oui,
et
pour avoir d'autres gestes.
Pousser sur leurs parents pour dire, « Hey, papa, maman, arrêtez de faire ça, ça n'a pas de bon sens, vous polluez ma planète. » Et pour un parent, j'en suis un, il n'y a rien de pire que de faire une mauvaise action devant ses enfants. Fait que ça, c'est une bonne façon de changer nos habitudes, de se donner une bonne raison de changer nos habitudes.
Eh bien, on arrive à la fin de cette entrevue, Jimmy. Merci beaucoup, Jimmy Vigneux. Et bravo pour tout ce que vous faites. Et vous m'avez donné le goût. Voilà.
Bon, mais tant mieux que je vous remercie pour
le nettoyage. Merci beaucoup, Jimmy.
Au revoir.
Merci, au revoir.
On part en musique avec White Horse, Blue Christmas. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Donc, on remercie Jimmy Vigneux pour. Puis, pensez à Mission Milton, à vos bottes et au bord de l'eau pour aller nettoyer un petit peu.
Pour ceux qui aimeraient bien avoir ça comme. Passer le temps comme ça en fin de semaine, pourquoi pas? Les cours d'eau, ça concerne tout le monde.
C'est vrai.
Et puis, voilà, et puis l'environnement. Comme c'est un de nos sujets de prédilection ici à Regard Croisé, faut pas jouer avec ça. Voilà, ça fait. Alors on dit merci à
Justice.
À Justice.
C'est un beau prénom d'ailleurs.
Voilà, Maurice me demandait est-ce que c'est vraiment ce nom. Oui, il s'appelle Justice. C'est comme des gens en France qui s'appellent Dumoulin, comme le moulin. Voilà, Justice Ruticara. Voilà, ce jeu d'auteur, cinéaste, comédien, qui est artiste boursier du calque. Conseil des arts et lettres du Québec. On dit merci aussi à tous nos auditeurs et auditrices qui nous suivent, qui nous écoutent, qui nous découvrent, pourquoi pas. Merci à notre.
Merci Maurice Bolduc pour les musiques. Merci Maurice Bolduc, pardon, je me suis trompé sur ton nom, j'ai fait un.
Notre complice à la console. Oui.
Voilà. Donc,
Maurice Bolduc.
On va voir, de toute façon, on est encore, on va avoir notre rendez-vous de demain, bien sûr, même heure, même endroit. Et puis, voilà, tout, On arrive au bout de cette émission et j'espère qu'elle vous a plu. Je suis encore dans l'émotion de l'histoire d'aller chercher les déchets et de tout le travail qu'on a à faire. Ouh, ça m'a fatigué mes neurones.
Prenez soin de vos minutes et puis on se retrouve demain.
Au revoir à toutes et tous, voilà. Et puis à demain.